Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour. Dans cette petite chronique du grand monde du travail, nous allons parler aujourd'hui de l'amiante. Alors pourquoi l'amiante? Puisqu'un certain nombre d'entre nous pensons que le sujet serait derrière nous. Eh bien non, le problème n'est pas derrière nous du tout, notamment en ce qui concerne le nombre de victimes, mais pas seulement. Donc on a décidé de traiter ce sujet. Alors, en face de moi, Jean-Marie Birbès. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour.
Alors Jean-Marie Birbès, c'est le président de l'association de défense des victimes de l'amiante dans la région de Gaillac. Alors c'est pas très loin, et Jean-Marie est bien sûr tout à fait disponible avec son association pour nous aider sur ce sujet. Alors, première question pour Jean-Marie, qu'en est-il aujourd'hui sur le plan des victimes? Est-ce que la grande vague est passée? Est-ce qu'on en a presque plus? Où est-ce qu'on en est?
Alors, contrairement aux pays du Nord, l'Allemagne ou la Hollande, qui ont interdit l'amiante bien avant nous, nous sommes encore dans une phase, on pourrait dire, ascendante, hein, puisque le nombre de maladies, surtout les plus graves, c'est les cancers bronchopulmonaires ou le cancer de l'amiante, qui est le cancer type, qui est le mésothéliome de la plèvre, mais pas que aussi, puisqu'on peut être atteint au péritoine ou au niveau du péricarde, eux ne baissent pas. Donc il n'y a pas encore, on n'est pas dans la phase descendante des maladies professionnelles liées à l'amiante.
Alors non, donc c'est bien un sujet d'actualité, hein. Pour en démontrer l'importance, le chiffre de 3000 décès en France par an, c'est un chiffre officiel, hein, est toujours d'actualité. Alors 3000 décès en France par an, j'ai regardé, hein, pour donner un aperçu, c'est bien plus que l'affaire du sang contaminé ou du médiateur dont on parle en ce moment, hein. Donc ça donne un point de repère, ça ne veut pas dire qu'il faut oublier les autres, mais tout de même, c'est un élément majeur de réflexion. 3000 décès en France par an, toujours aujourd'hui. Alors, autre question pour Jean-Marie. Bien sûr, c'est la question du plan international et de son éradication. Tu as parlé de l'Allemagne qui avait pris des dispositions avant nous. Mais sur le plan international, on en est où? Est-ce que l'affaire, l'interdiction de l'amiante est une affaire réglée partout?
Non, pas du tout, parce que en fait, c'est un combat permanent. Bon, par exemple, si on prend le Brésil, il y a une région qui a interdit l'amiante, mais au niveau de l'État, l'amiante n'est pas interdit et peut être toujours remise en question. On voit l'élection de Bolsonaro, qui est un peu semblable à celle de Trump, qui lui veut aussi réhabiliter l'amiante. Donc la Chine qui en utilise beaucoup, l'Inde qui est encore, la Russie qui est le plus gros producteur. Le Canada qui ne produit plus d'amiante, mais depuis un passé assez récent. Donc ce combat, on ne peut pas dire... Il y a des acquis, c'est comme les acquis sociaux, il y a des acquis, mais il faut être vigilant, parce qu'ils sont sans cesse remis en question, et puis il y a une telle poussée des multinationales qui produisent l'amiante pour sa réhabilitation, sous une autre forme ou sous une autre, en changeant de nom, voire les stratégies qu'ils peuvent mettre en place.
Donc, en résumé sur ce sujet, la menace reste importante, hein, et le sens de l'histoire n'est pas écrit d'avance, on peut le résumer ainsi. Alors, les expositions aujourd'hui sur l'amiante, elles existent toujours, notamment quand on démonte, mais pas seulement. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots quels sont les risques aujourd'hui sur les expositions, que ce soit à l'entreprise ou dans la vie privée?
Alors déjà, il y a un gros problème, c'est celui des déchets, qui est complètement abandonné, qui est laissé en fait au temps, c'est-à-dire qu'on va rien faire, ou on va laisser des stocks se développer, ou alors on va laisser par exemple les agriculteurs se débrouiller tout seuls avec leur toiture, souvent c'est enfoui sur les chemins ou autre. Donc il y a ce gros problème-là. Mais il y a aussi en fait tous les bâtiments qui sont encore en présence d'amiante, soit sur le sol, soit sur les parois, soit sur les toits. Et l'affaire est relativement importante. Moi, je prends comme exemple d'ailleurs Les hôpitaux de Toulouse, l'ensemble des hôpitaux de Toulouse, donc à part l'arrêt qui est un bâtiment qui est très moderne, mais après tous les autres, on s'est aperçu qu'il y avait énormément d'amiante sur les calorifuges, sur la protection des tuyaux, etc. Dans ces sites-là, sur les dalles de sol, etc. Donc il a fallu tout un travail de prise en compte par le CHS des hôpitaux et un travail avec le milieu associatif dont nous avons participé, mais aussi des jeux avec des cabinets d'avocats pour faire pression sur l'administration pour qu'ils dégagent des sommes qui sont relativement importantes pour que le désamiantage se fasse et se fasse dans de bonnes conditions. Parce que là aussi, souvent, c'est un peu fait, comme c'est coûteux, c'est souvent fait en dépit du bon sens. Et donc, on met en situation de risque donc, les gens qui vont intervenir sur ces activités-là. Donc, il y a ce problème-là, il y a ce problème de... Alors après, on connaît... Les textes de loi sont faits, tout est fait. Donc il n'y aurait qu'à les respecter, parce qu'en fait, depuis 1996, les différentes directives, soit pour les bâtiments administratifs, les bâtiments privés, etc., tout est fait. Mais, bon, vous l'avez bien compris, c'est une question d'argent, donc comme c'est une question d'argent, on va essayer de limiter les frais, et donc si on peut, eh bien, soit on ne va pas dire, soit on ne va pas faire, soit on va faire de façon tout à fait... incorrect, donc on expose les gens, soit on va détruire des bâtiments et on va un peu oublier les victimes. Donc il faut engager des combats comme le Tripode de Nantes, etc. C'était un bâtiment énorme, un peu comparable à la Tour de Jussieu à Paris, où vivaient des fonctionnaires du Trésor, etc. Donc des gens qui ont été exposés à l'amiante, où bon, quand on a vu les dégâts que ça faisait, on détruit et on sous-estime ou sous-évalue les personnes qui étaient exposées et y compris des personnes qui ont développé des maladies professionnelles. Donc c'est quand même un vaste problème. C'est le problème global, c'est pas que l'amiante, c'est le problème global des déchets. Mais on le voit d'ailleurs pour les sites industriels qui ont fermé, les mines, on voit ça, les signes pas très loin de chez nous, avec les dégâts que ça cause partout, avec l'arsenic, etc. On a cette même politique, c'est-à-dire que, ma foi, on va laisser le temps faire, hein. On va laisser les orages successifs lexiver les sols, etc. On va pas intervenir. Et puis, comme les cancers vont se diluer dans la population, et comme on n'aura pas vraiment de chiffres qui représenteront les dégâts qui auront été causés par ces catastrophes sanitaires.
Alors, je voulais donner un aperçu aussi de l'attitude des pouvoirs publics récents, puisqu'on a cette dispersion de 1000 mètres carrés de toiture d'amiante lors de l'incendie de Lubrizol, et le préfet qui sort des calculs savants tout à fait malhonnêtes pour affirmer que finalement qu'il n'y aurait pas de risque pour la population. On a pu démontrer que ces calculs étaient malhonnêtes d'ailleurs. Donc, mais on est toujours... y compris, alors bien sûr les patrons, mais y compris les services de l'État, dès lors qu'il s'agit soit de cités administratives, comme c'est le cas à Rouen et à Nantes, tu l'as cité, je pense aussi à la Tour Montparnasse, hein. Et là, sur cet incendie, on a quelquefois des dénis, voire des affirmations malhonnêtes, y compris des services de l'État. Alors, avant d'aller plus loin, on aurait pu commencer par là, on a parlé des 3000 décès par an, mais peut-être de rappeler tout de même, pour les gens qui nous écoutent, quelles sont les maladies qui sont liées à l'amiante, les reconnues dans les tableaux de maladies professionnelles, mais aussi les autres.
Alors, avant, moi, peut-être, je voudrais juste dire une chose par rapport à ce qui a été cité auparavant, sur les conséquences d'exposition. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une profession qui est particulièrement ciblée, c'est celle des sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers se trouvent donc au contact des incendies majeurs, avec donc des sites pollués, avec des toitures amiantes, etc. Et on commence à voir des mésothéliomes donc, dans la profession des sapeurs-pompiers. Parce que ce sont des gens quand même qui sont en première ligne lorsqu'il faut qu'ils interviennent. Alors on voit la cathédrale de Paris, mais on voit effectivement, tu parlais tout à l'heure de ce fameux incendie de Rouen chez Lubrizol. Les sapeurs-pompiers sont en première ligne, donc c'est les premiers à être au contact, mais vraiment massivement, à des polluants extrêmes. Alors bon, même s'ils ont des appareils de protection, etc., il ne faut pas les oublier. Aujourd'hui, ils sont vraiment au contact avec ces produits. Alors concernant les maladies professionnels liés à l'amiante. Il y a eu une évolution du tableau, mais le tableau existe depuis 1945. Dès la création de la Sécurité sociale, le tableau 30 a bien reconnu, mais il avait reconnu tout d'abord l'asbestose. Alors l'asbestose, si on peut la comparer en fait à la silicose du mineur, c'est une exposition massive, donc les bronches sont obstruées par les fibres d'amiante et la personne finit avec sa bouteille d'oxygène, donc avec une maladie évolutive, donc avec des problèmes de respiratoires qui sont énormes. Donc ça c'est la maladie qui était connue depuis plus de 100 ans dans l'industrie, voilà. Donc les gens mouraient, c'était assez horrible d'ailleurs, parce qu'ils mouraient étouffés. Donc l'asbestose était reconnue immédiatement. Après on a eu les cancers bronchopulmonaires, mais il a fallu arriver dans les années 77 pour voir l'évolution et la création du tableau 30 bis qui reconnaît d'une part l'asbestose, mais ensuite les cancers bronchopulmonaires liés à l'amiante, mais aussi les plaques pleurales ou les calcifications, qui sont en fait des marqueurs. C'est-à-dire l'amiante qui a été respirée se retrouve en bas des poumons. Donc l'organisme se protège un peu comme quand vous avez une écharde. Donc elle fait un durillon et l'amiante est prise dans ces durillons, ce qui provoque parfois des douleurs ou des raidissements du fond du poumon. Donc c'est la calcification ou plaque pleurale. Qui est vraiment, si on prend l'exemple des ouvriers d'Eternite, là où j'ai travaillé moi, c'est 80% des maladies professionnelles qui sont reconnues, c'est la plaque pleurale, donc qui est vraiment marqueur des expositions et qui peut évoluer. Mais on y reviendra. Et après, donc, les cancers, surtout le cancer de l'amiante proprement dit, qui s'appelle le mésothélium, et qui peut atteindre les trois organismes principaux, surtout les enveloppes, l'enveloppe des intestins, le péritoine, du cœur, le péricarde, ou la plèvre, qui est le cancer le plus répandu, le mésothélium de la plèvre, avec une espérance de vie qui est de 6 mois à 2 ans, même s'il y a des progrès aujourd'hui qui sont faits, mais les issues sont souvent dramatiques. Et donc, ce mésothélium, c'est lui que l'on voit continuer aujourd'hui, à toucher tous les salariés ou les gens, parce qu'il n'y a pas que les salariés, ou les gens qui ont été exposés à l'amiante de façon environnementale ou dans leur bureau par les systèmes de ventilation, les gaines, etc. et tout ça. Donc c'est quand même quelque chose d'assez énorme, en fait, ce scandale sanitaire de ces, l'ensemble des maladies. Moi, je veux juste dire un chiffre. Eternite, au plus fort, a compté 6000 salariés. 6000 salariés, aujourd'hui, il y a à peu près 200 ou 300 salariés en France, c'est pas plus, c'est fini. Et donc l'amiante a été interdite en 96, à partir de 97, nous avons utilisé d'autres fibres. Sur Eternite, la maladie reconnue par la Sécurité sociale, c'est plusieurs milliers. Et c'est à peu près 1 000 000 de décès. Et là, c'est des chiffres que ne pourront pas contester. Ils sont certainement supérieur, parce que je ne parle que des maladies reconnues par la Sécurité sociale, donc qui sont incontestables. Donc voilà, en gros, en année, c'est effectivement, tu le rappelais tout à l'heure, c'est quand même depuis maintenant des dizaines d'années, puisque cette industrie a démarré après la guerre de 14, après la Première Guerre mondiale, c'est une industrie qui a causé, dans l'industrie, mais à l'extérieur, des centaines de milliers de morts.
Donc c'est pas gai. Est-ce que tu peux nous dire un mot aussi sur ce qui n'est pas reconnu dans les tableaux par la Sécurité sociale, mais qu'on peut quand même faire reconnaître avec une procédure qui est plus complexe, on n'aura pas le temps de l'expliquer, simplement de dire quand même quelques mots sur d'autres maladies liées à l'amiante qui devraient être reconnues il y a automatiquement qu'ils ne sont pas aujourd'hui.
Alors, ça, c'est des combats que nous menons. Parce que, en gros, pour expliquer aux gens, on est dans l'infiniment petit. L'amiante se défibre infiniment. Donc, ce processus, de toxicité de l'amiante ne viennent pas en elle-même de la fibre, mais de ce qui s'est déposé dessus. C'est-à-dire que, au fil des millénaires, par des processus géologiques, les métaux lourds se sont déposés sur les fibres d'amiante. Et donc, quand ils rentrent dans l'organisme, comme ce sont quand même des choses, comme je viens de le dire, infiniment, on est dans l'infiniment petit, provoquent une réaction mutagène de l'organisme. Donc, nous trouvons des gens qui ont été en contact à l'amiante, qui développent des cancers du larynx, de l'œsophage. Mais ça peut aller beaucoup plus loin, parce que comme on est dans des systèmes donc, d'absorption par le corps d'un infiniment petit, nous avons aussi des cancers de la prostate, pour avoir de l'utérus, etc., pour les femmes qui n'ont pas été quand même, qui ont été fortement exposées aussi, et souvent parce que c'était les épouses des salariés ou autres qui nettoyaient les bleus, etc. Et donc tout ça, c'est, comme tu l'as dit, c'est un combat qui est long parce que ça ne rentre pas dans les tableaux. Ce n'est pas dans les tableaux, donc pour le faire reconnaître, c'est un combat de longue haleine où nous ne réussissons pas toujours. Mais c'est à mener. Et c'est vrai que là, ça peut nous donner... Alors, le combat de l'amiante est révélateur, en fait, de cette complexité. Mais il est très important parce que, malheureusement, dans l'avenir, nous aurons besoin de ce savoir pour aider les gens qui sont victimes de molécules ou d'agents chimiques ou dans l'infiniment petit des nanoparticules à venir, etc., etc. C'est exactement... On est en plein dedans, quoi.
Alors, on est en plein dedans avec cette complexité. On l'a dit un petit peu rapidement tout à l'heure, qu'on a ce qu'on appelle des effets retard, hein, puisqu'on peut avoir des cancers qui se déclarent quelquefois plus de 40 ans après l'exposition et qui sont néanmoins attribués à l'amiante. Encore faut-il être capable de remonter les historiques sur plusieurs décennies. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore rencontrer de l'amiante autour de nous et où ? Quelques exemples pour qu'on puisse un peu illustrer, puisqu'on pense toujours au flocage d'amiante, mais aux isolations, mais il n'y a pas que les gros isolants qu'on connaît pour isoler les maisons, il n'y a pas que le fibro, donc est-ce qu'on peut en rencontrer ailleurs ?
On en rencontre dans les tuyauteries, d'alimentation d'eau, d'évacuation. On a encore beaucoup de réseaux d'eau donc, qui sont faits en tuyaux d'amiante-ciment, donc, qui ont été produits jusque dans les années 80-90. Massivement, effectivement, c'est des plaques ondulées donc, voilà, qui se détériorent au fil du temps. Mais on peut en retrouver aussi, on en retrouve un peu partout, on peut même en retrouver maintenant dans les jouets, parce qu'il faut faire très attention, puisque l'amiante est utilisé aussi en Chine, etc. Donc il peut y avoir des matériaux qui rentrent comme ça, mais on peut en retrouver dans l'isolation des tuyaux, on peut en retrouver dans les faux plafonds, on peut en retrouver dans des endroits parfois inattendus, parce que souvent on a masqué, on a mis des couches de peinture successives ou des plaques, etc. Donc il faut être, je pense que les artisans, qui sont en première ligne d'ailleurs, qui sont les plus touchés, qui eux souvent interviennent et ne savent pas trop ce qu'ils vont faire, soit dans les démolitions, soit dans les réparations, soit dans la maintenance, mais aussi le personnel de France Télécom, ex-France Télécom, enfin tous les gens qui travaillent, qui percent, qui poncent, etc. Les cheminots, il y a beaucoup de cheminots qui sont atteints parce que il y a les cabanes en bord de voie ferrée sont en amiantiment, etc. Donc, je pense que, avant tout, si on fait un bon travail, si on a un plan de prévention, si on regarde dans quoi on va travailler, on peut éviter des expositions. Alors voilà, percer, meuler, poncer, libérer les fibres, parce que en fait le problème de l'amiante, c'est que elle, en elle-même, la fibre est pratiquement indestructible. Elle résiste aux acides, elle résiste à la température, elle résiste donc à l'érosion du temps. Donc, vous voyez bien que dans un matériau composite, c'est-à-dire de plâtre, de ciment ou d'autres, la dégradation des matériaux va aller beaucoup plus vite que celui de l'amiante. Et donc, on va forcément libérer. Moi, je me promenais dans des petits villages charmants de côté de chez moi, et je vois des tuyaux qui servent donc pour faire écouler l'eau de pluie, etc. Avec le temps, le ciment, lui, va se désagréger, et je montrais à quelqu'un, j'ai dit, ah, tu vois, là, il y a les fibres d'amiante bleue qui commencent à se défibrer et partir dans l'air, etc. Voilà. Donc, comme comme ce danger, il est présent, parce que elle, en fait, c'est pas une question de dose et d'effet, c'est pas une question de, on peut absorber une quantité très faible de fibres d'amiante, et puis dans 20 ou 30 ans, comme tu l'as dit, développer un cancer, voilà. Il n'y a pas de relation entre la dose et l'effet. Il faut être vigilant, il faut faire attention, et surtout bien respecter les normes de travail quand on se présente. Et quand on a un doute, ne pas hésiter à faire intervenir une expertise, donc, pour savoir devant quel matériau on se trouve.
Alors donc, vous voyez, donc on est toujours sur des expositions potentielles aujourd'hui. Hein. Pour donner une image, il faut savoir qu'on a importé l'équivalent par habitant en France de 74 kilos par habitant en France. Donc vous voyez qu'il y a de quoi faire en termes de placement de l'amiante dans ce qui nous entoure encore aujourd'hui. Alors une question par rapport à l'amiante, c'est la question des substituts. Est-ce qu'il y a des risques sur les substituts classiques et je pense en particulier, mais tu vas le dire, par rapport aux fibres céramiques.
Alors les fibres céramiques, on est dans la même situation en fait que pour l'amiante. On est dans quelque chose qui est très fin, très petit. Donc les fibres de céramique, faut vraiment faire attention parce que là, il est possible un jour qu'on développe aussi un genre de mésothélium ou quelque chose de semblable. Hein. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un peu pareil. Les chercheurs que nous rencontrons se font du souci par rapport aussi aux nanoparticules qui sont, elles, qui vont être beaucoup plus utilisées que les fibres de céramique. Mais la céramique, ça peut poser un problème. Après, les fibres de remplacement qui ont été notamment utilisées dans l'industrie pour remplacer l'amiante, surtout sur les fibres au ciment, on n'est pas dans la même échelle. On est sur des fibres souvent qui sont non toxiques, parce que c'est des fibres de bois, ou des fibres de polyvinyl alcool qui sont fabriquées à base de charbon et qui sont d'une grosseur beaucoup plus importante en fait que l'amiante, et surtout qui sont très facilement, qui se détruisent facilement dans le temps. Et c'est-à-dire qu'elles n'ont pas une durée de vie, elles n'ont pas cet aspect d'éternité, parce que le nom d'éternité vient de là d'ailleurs, de l'amiante. Et c'est-à-dire que voilà, on est devant des fibres soit déjà beaucoup plus grosses et puis qui ne résistent pas à l'ouvrage du temps, qui peuvent vraiment disparaître. Donc il faut faire attention. Moi, je dirais plutôt. D'abord, les fibres céramiques, c'est vrai, mais surtout, après, nous allons rentrer dans d'autres aspects qu'amène le progrès tous les jours, hein, c'est-à-dire les molécules chimiques et les nanoparticules et les interactions qu'il peut y avoir entre elles.
Alors, juste un mot pour préciser sur les fibres céramiques, puisqu'on a le choix, grosso modo, entre les laines de verre, etc., et depuis une vingtaine d'années, les fibres céramiques, enfin un peu plus de 20 ans maintenant. Il faut savoir que les fibres céramiques sont classées maintenant cancérogènes au niveau européen, donc on ne devrait pas pouvoir en trouver sur le marché, et on en trouve encore. C'est-à-dire qu'on est comme avant 1997 sur l'amiante, on sait que c'est une cochonnerie et on n'arrive pas aujourd'hui à obtenir l'interdiction des fibres céramiques, et on a déjà des cas de mésothélium fibres céramiques qui ont été reconnus, on en a quelques-uns. Voilà, ça c'était un point sur les fibres céramiques. Retenez que c'est la même cochonnerie et qu'on ne devrait pas pouvoir en trouver, mais c'est pas encore le cas. Alors, par rapport aux responsabilités, Jean-Marie, peut-être que parce qu'on parle de ça, mais historiquement quand même, est-ce qu'on a découvert ça juste avant 1997, lorsqu'on a interdit l'utilisation des fibres céramiques? Ça date de quand cette affaire-là, et pourquoi ça a duré si longtemps? C'est-à-dire que on apprend que quelque chose est dangereux, on le supprime. Enfin, moi, je raisonne un peu simplement. Est-ce que c'est le cas, et où sont les responsabilités à partir de là?
Alors, l'amiante, on sait que c'est dangereux depuis le début du siècle dernier. pas d'un sueur, mais de l'autre. Donc, on sait très bien les dégâts que ça causait dans les filatures, etc. On sait, la mort blanche, on connaissait les rapports, etc., en Angleterre et tout. Mais par contre, là où on en est sûr, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Mais vraiment, il n'y avait aucun doute. Déjà, dans les écoles de médecine, on savait très bien le pouvoir cancérogène de l'amiante. Mais après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des événements qui se sont produits, notamment la production de bateaux américains en grande quantité pour pourvoir aux besoins malheureux de la guerre. Et donc, c'est pour retarder le feu, on avait floqué de l'amiante, etc. Et donc, les études qui ont été faites après ont démontré que tous les gens qui ont travaillé là-dedans sont décédés très rapidement, etc. Après, il y a eu des études qui ont été faites sur les mineurs d'Afrique du Sud. Et c'est là, d'ailleurs, que le mésothéliome a été découvert. Et des travaux qui ont été faits par le professeur Silikov, qui, au départ, étaient des travaux qui avaient été demandés par l'industrie. Lui, il a fait un travail très honnête. Il a démontré qu'en fait, l'amiante était cancérogène, mutagène, donc, et qui allait provoquer donc, une série de cancers, notamment au niveau du poumon, mais pas que. Donc tout ça, on le savait. On le savait. À l'époque où s'est développée l'industrie, mais on était face donc à un problème économique, et comme vous le savez, pas vous l'apprendre, c'est l'économie qui décide, ce n'est pas la santé. Et donc on a privilégié d'occulter, de semer le doute. Alors les stratégies, on ne va pas les développer là parce que c'est énorme, c'est colossal, c'est aujourd'hui les mêmes qu'on utilise pour les pesticides et pour la chimie, c'est-à-dire on va détourner le savoir, on va à la moindre enquête qui va être menée par un professeur va ressortir une contre-enquête qui va dire le contraire, qui va semer le doute, etc. Donc, les intérêts économiques sont prépondérants. Et donc, nous, on s'est trouvé devant cette situation. Et le drame, mais le grand drame, ça a été 1976. 1976, avec les filles d'Amisol qui ont mené un combat extraordinaire, puis à Jussieu, et tout ce qui s'est passé, et tous les doutes qui n'était plus, qui était levé. On savait parfaitement la situation. Et là est intervenu quelque chose qui a été horrible, c'est-à-dire le tableau 30 bis, qui reconnaît les maladies, mais en même temps, cette histoire de seuil, de limite de seuil, de valeur limite d'exposition. Et en fait, on a tenter de faire croire aux gens que si on les exposait à des situations d'exposition moindres, ils n'auraient pas été malades. Et là, ça a été dramatique ce qui s'est passé, parce que l'amiante, comme aujourd'hui les pesticides, comme tous les molécules chimiques, ce n'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, une question de dose et d'effet. Ce que disait Paracelse, que c'était la dose qui crée le poison, c'est faux pour ce genre de fibres. Une seule suffit à provoquer la maladie la plus grave. Donc, cette valeur limite d'exposition qui ont été inventées au moment de l'usage contraint de l'amiante, c'est-à-dire à partir de 1977, pour pouvoir permettre à l'industrie de continuer à produire, de gagner du temps, de gagner aussi énormément d'argent, ça a été un crime. Ça a été un crime. Parce qu'en fait, tout le monde a cru, et y compris nous, quand on travaillait, qu'effectivement, la priorité, c'était le combat qu'on menait dans les CHS, c'était d'abaisser les seuils d'exposition, c'était de réduire l'exposition dans les ateliers, etc. Ça a eu un effet bénéfique, c'est qu'on a vu disparaître l'asbestose. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de gens qui ont eu les broches remplies de fibres et qui s'étouffaient. Par contre, ça a permis de travailler 20 ans de plus avec ce poison et d'exposer aux maladies les plus graves, c'est-à-dire les cancers, des milliers, des centaines de milliers de citoyens et de salariés.
Merci Jean-Marie pour ces précisions. Alors vous avez remarqué que le sujet n'était pas gai, hein, il est même franchement triste. Et donc on va faire une petite pause et puis on va varier de ton complètement, hein, on va pour rigoler 5 minutes si on peut. Je vous propose d'écouter la chanson d'Henri Salvador, Le travail c'est la santé, ça va nous changer un petit peu de la tristesse du sujet pendant quelques minutes.
Le travail c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ces gens qui courent au grand galop en auto, métro ou vélo, vont-ils voir un film rigolo? Mais non, ils vont à leur boulot. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ils bossent 11 mois pour les vacances et sont crevés quand elles commencent. Un mois plus tard, ils sont costauds, mais faut reprendre le boulot. Et tous ensemble là, le travail c'est la santé. Rien faire c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Dire qu'il y a des gens en pagaille sans cesse après le travail, faut être fou. Moi le travail me court après, il n'est pas prêt de me rattraper. Le travail c'est la santé. Tu parles, rien faire c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Les gens travaillent comme des sauvages, je les ai vus, pour se payer tout le confort. Quand ils ont tout bas, ils sont morts. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux.
Eh bien, bon, après cette chanson d'Henri Salvador, Le travail, c'est la santé, on va retourner sur notre sujet qui est nettement plus grave. Alors, on était en train de débattre avec Jean-Marie Birbès, qui est le responsable de l'association de défense des victimes de l'amiante sur Gaillac. Donc, de la question de l'amiante et de ce qu'il faut savoir. Alors, Jean-Marie, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ce qu'est la réglementation aujourd'hui en termes protecteurs, parce qu'elle a un peu évolué, mais simplement rapidement, ce qu'il faut en penser.
Alors la réglementation, elle a évolué, oui, depuis de façon 96-98, on a des abaissements de seuil, donc c'est-à-dire on a divisé la quantité de fibres dans l'air de façon considérable, hein, mais pas suffisante, et puis après, surtout la comptabilisation des fibres courtes qui souvent ne se fait pas. Donc sans rentrer dans les détails, parce que là on serait vraiment dans des discussions très techniques, mais un abaissement des seuils. Mais aussi, de notre côté, on ne tient pas compte de certaines fibres courtes ou de certaines fibres. Donc, il y a encore un travail important à faire. Le mieux, de toute façon, c'est que quand on est en présence de ces agents cancérogènes, c'est de protéger au maximum et d'éviter toute exposition, même à des fibres à quantité très, très, très peu élevée, quoi. Voilà. Le mieux, c'est ça. Et puis, surtout, de plus en produire. Quoi.
Voilà, rapidement sur la question des seuils, puisqu'il y en, dans la réalité, tu l'as expliqué, il n'y en a pas. Sur le plan administratif, il y en a, mais pas sur le plan biologique.
Non.
Et de rappeler que jusqu'en 2015, dans les analyses officielles, on ne comptait pas les fibres courtes, alors qu'on savait déjà que les fibres courtes étaient aussi dangereuses que les fibres longues. C'est seulement depuis 2015 qu'on les compte. Mmh. Donc ça veut dire qu'avant 2015, finalement, les résultats soi-disant protecteurs des analyses quand on était en dessous des seuils qu'on nous donnait, ça ne voulait rien dire, tout simplement. Alors, Il y a une question d'actualité là, dont la presse parle un peu, c'est le fameux préjudice d'anxiété. Alors on en a parlé d'abord pour l'amiante. Il y a eu des décisions de justice contradictoires sur ce préjudice d'anxiété. Tu vas pouvoir peut-être dire un mot sur ce que ça signifie, le préjudice d'anxiété, et peut-être de nous dire rapidement aussi quelle est la dernière décision de justice qui est fort intéressante sur le sujet.
Alors, le préjudice d'anxiété, ça concerne les gens qui ont été exposés à l'amiante mais qui ne sont pas malades. Donc, comme ils ont été exposés à un cancérogène puissant, par les combats que nous avons menés au niveau des associations et des syndicats, nous avons obtenu de la justice ce préjudice d'anxiété qui prend en compte l'exposition à ce cancérogène. Ça, c'est fondamental. Ensuite, les dernières décisions qui ont été validées par la Cour de cassation, c'est d'étendre le préjudice d'anxiété à l'ensemble des cancérogènes. C'est-à-dire qu'un salarié qui peut apporter des preuves de son exposition à un cancérogène avéré, dont on connaît ses conséquences, peut bénéficier, s'il n'est pas malade, du préjudice d'anxiété. Je pense qu'on reviendra dans la discussion sur les différents aspects juridiques, parce qu'il faut bien expliquer ça. Le préjudice d'anxiété, je le répète, concerne les salariés qui ont été exposés d'abord à l'amiante, mais ensuite au cancérogène, et qui peuvent bénéficier de cela.
Donc quelque chose à regarder de près, d'autant plus que la Cour de cassation vient de dire, c'est il y a quelques jours seulement, oui. Donc c'est intéressant, que ce préjudice d'anxiété s'applique pas seulement aux gens qui ont été exposés à l'amiante, mais à tous ceux qui ont été exposés à un risque grave qui pouvait conduire à une dégradation importante de leur état de santé.
Tout à
On
fait.
Peut l'élargir à d'autres
Tout
cancérogènes, par exemple. Alors, on va venir maintenant plus précisément à l'intérêt, si on peut dire intérêt, mais par rapport à la situation tout de même, quel est l'intérêt pour une victime de l'amiante d'être reconnue en maladie professionnelle ? Ça lui apporte quoi concrètement ?
Alors, déjà, je crois qu'il faut expliquer un peu comment se déroule tout ce processus. D'une part, un salarié qui a été exposé à l'amiante, s'il est encore en activité, doit bénéficier d'un suivi professionnel dans le cadre de médecine du travail, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure. Dans un premier temps, au niveau médical, la personne qui a été exposée à un cancérogène, puisque c'est le cas de l'amiante à l'amiante, doit bénéficier d'un scanner, parce qu'en fait, si on veut trouver des plaques pleurales, etc., doit bénéficier d'un scanner pour voir son état de santé et comment sont ses poumons. Et surtout, il doit le faire avant l'âge de 50 ans. Pourquoi ? Parce que si cette personne qui était exposée développe des plaques pleurales, il peut bénéficier d'un système qui s'appelle l'ACATA, mais je pense qu'on y reviendra par la suite. Il n'y a pas d'autre moyen que le scanner pour voir l'évolution d'une maladie, surtout l'apparition des plaques pleurales ou des calcifications. Souvent, à la radio, c'est pas suffisant. Et ensuite, cette personne-là doit bénéficier, donc tous les 5 ans, 6 ans, de ce suivi, soit pendant son activité, soit après, une fois qu'il est à la retraite, c'est-à-dire ce qu'on appelle le post-professionnel. Voilà. Donc là, je pense que c'est la chose qui doit être faite. Il n'y a pas besoin, après, d'examens douloureux comme les lavages bronchopulmonaires, etc., qui permettaient de retirer du liquide avec la présence d'amiante. On n'a plus à démontrer ça. Je veux dire, c'est complètement aberrant. Il suffit de passer cet examen-là et on voit très rapidement si la personne est touchée ou pas par les fibres d'amiante. Et donc, ça doit entraîner une reconnaissance en maladie professionnelle. Parce que l'essentiel de l'examen, c'est ça. C'est-à-dire, on fait d'abord un bilan. Ensuite, s'il est négatif et qu'on trouve quelque chose, on fait une demande de reconnaissance en maladie professionnelle. Cette maladie de reconnaissance, donc cette déclaration de reconnaissance en maladie professionnelle permet à la personne d'être indemnisée, c'est-à-dire voilà, d'être reconnue dans un tableau et de bénéficier de l'indemnisation. Et ensuite, cette personne-là, si c'est un salarié, il peut aller en faute inexcusable pour démontrer que son employeur n'a pas mis tous les moyens pour le protéger. Ça, c'est tout un déroulement à partir de ce suivi professionnel.
Alors, ce que je voulais que tu nous dises, c'était en fait l'intérêt personnel de la victime d'être reconnue en MP, parce que il y a une question qui est connue, bien connue, c'est que la prise en charge des soins à 100%, oui. Que les indemnités journalières ne sont pas les mêmes,
oui.
La rente et le transfert de la rente éventuelle sur le conjoint survivant, c'est quelque chose qu'on connaît peu, et également dans certains cas même aux enfants. Donc être reconnu en maladie professionnelle, c'est pas seulement la prise en charge des soins et des indemnités journalières, si différentes, d'un niveau différent de celle de la maladie si on est encore en activité, mais c'est cette fameuse question de la rente dans la mesure où il y a une incapacité permanente qui est proportionnelle finalement à la gravité de la situation individuelle. Et cette rente, en cas de décès, est transmissible aux conjoints, voire aux enfants. Donc c'est un aspect que je voulais que les gens connaissent.
Oui.
Mais
il y a aussi une chose, c'est de rompre l'invisibilité des maladies professionnelles. Parce que à un moment donné, la reconnaissance à maladie professionnelle permet, ben, par exemple pour nous, pour Eternit, on sait exactement combien il y a de gens et on peut amener ces chiffres-là pour démontrer aussi la nocivité d'un produit. Moi, je prends l'exemple des pesticides dans le monde agricole, puisque maintenant notre assoce est ouverte sur le monde agricole. Il est très difficile parce qu'il y a des retenues, y compris des médecins, etc., à faire le certificat initial qui permet de reconnaître la maladie professionnelle. Pourquoi ? Parce que si on arrive à démontrer que les maladies de Parkinson, que les lymphomes, que tous les cancers qui sont développés à base des pesticides proviennent des pesticides et sont reconnus, nous aurons des arguments, d'abord, un, pour rompre l'invisibilité de ces maladies, deux, pour démontrer la toxicité de ces produits. Moi, je me souviens toujours, quand j'ai discuté avec Josette Rouder, qui était la camarade qui s'occupait des gens d'Amisol, donc à l'époque, elle disait, quand on a fait ce premier travail de recherche sur la toxicité de l'amiante, Henri Pezera avait démontré scientifiquement le cheminement mutagène, cancérogène de la fibre d'amiante, mais la seule preuve, c'était les morts qui tombaient dans l'usine et qui amenaient la preuve de ce que scientifiquement quelqu'un d'autre avait démontré. Et aujourd'hui, on en est là. C'est primordial. D'une part, c'est dans l'intérêt de la personne, comme tu viens de le rappeler, Philippe, parce que il y a des indemnisations qui sont non imposables pour la victime, pour son épouse, pour les ayants droit, les petits-enfants, etc. Mais ça, c'est le côté un peu, comment dire, on répond à des dommages qui ont été donc amenés sur une personne. On lui dit, voilà, tu as eu des dommages, tu vas être indemnisé. Mais en même temps, il y a un rôle collectif, social, humain, qui est celui de dire, mais ça sera inscrit, voilà, tu es reconnu. Et donc à partir de là, on peut aussi amener des combats pour faire changer les comportements industriels ou d'utilisation de produits qu'on n'a pas utilisés.
Donc cette précision est importante, puisque pas de déclaration, eh bien invisibilité, et finalement on continue à travailler dans l'invisibilité, voilà. et tu fais bien de faire le lien avec des situations apparemment différentes, mais pas tant que ça.
Non.
Je pense aux pesticides, etc. Alors, un petit mot pour donner la précision sur la démarche à effectuer pour être reconnu. Alors, pour ceux qui sont affiliés à la Sécu ou la MSA, finalement, la déclaration se fait par l'intéressé lui-même. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce que des gens croient que le médecin traitant ou l'entreprise va le faire. C'est pas le cas. C'est bien vous qui la faites, la victime ou les ayants droit. Déclaration qui doit être accompagnée d'un certificat qu'on appelle certificat médical initial. Alors, on trouve les formulaires CERFA sur Internet sans difficulté. C'est un peu différent pour les fonctionnaires, donc ça ne marche pas tout à fait de la même façon. Mais là, on y viendra tout à l'heure, on a aussi des associations pour vous aider. Alors, sans être trop lourd, parce qu'on sait que c'est des sujets compliqués, peux-tu nous dire un petit mot sur ce qu'est le départ anticipé qu'on appelle l'ACATA ?
Alors, j'avais commencé un peu à a dévoilé un peu ce que c'était quand j'ai parlé de reconnaissance de maladie professionnelle, de rompre l'invisibilité et de ce suivi post-professionnel et ce que ça peut amener. Les combats que nous avons menés ont conduit à faire reconnaître que l'espérance de vie des gens qui avaient été au contact de l'amiante, donc d'un cancérogène puissant, était fortement diminuée. Et donc nous avions obtenu de la part du professeur Go, qui est connu pour tout son travail qu'il a fait sur les accidents de la route, etc., justement la preuve que cette espérance de vie était fortement amputée. Donc partant de là, nous avons obtenu un système de départ en pré-retraite qui tient compte des années d'exposition. Donc c'est un trimestre qui est déduit pour l'avancement de la retraite par année d'exposition. Nous avions, à l'époque, au niveau syndical, au niveau de la CGT, nous avions imaginé un statut du travailleur de l'amiante qui répondait à peu près à la même thématique, sauf que lui voulait que ce soit l'employeur qui finance essentiellement cette retraite anticipée de façon à protéger le travailleur qui avait été exposé. Ça a été repris en gros, sauf que le financement, effectivement, est tout à fait différent, parce que c'est la caisse des dépôts et consignations, c'est un peu la branche accident du travail, maladie professionnelle. Donc c'est un peu dilué, la responsabilité est diluée. Mais il n'empêche qu'une personne qui développe une maladie professionnelle et qui est reconnue, c'est pour ça que je parlais du scanner avant 50 ans, à partir de 50 ans, si le salarié est malade, il peut demander l'allocation de cessation d'activité des travailleurs de l'amiante qui, en fait, est à 65% du salaire brut annuel. C'est-à-dire, toute prime confondue, etc., on divise tout ça par 12 mois et on prend 65% du brut. Ce qui fait une perte de salaire pas très élevée, qui est intéressante de façon à privilégier ce salarié et à le mettre à l'abri et en dehors du travail. C'est quelque chose que moi j'appelle de révolutionnaire parce que c'est ce qui aurait dû continuer à exister pour l'ensemble des salariés exposés à des cancérogènes. Et quand on parle de pénibilité, c'était vraiment le système qui prenait vraiment en compte la pénibilité ou la dangerosité du travail. Donc ce système-là, il peut en bénéficier, donc s'il est malade. S'il n'est pas malade, on prend en compte donc les années d'exposition. Quelqu'un qui a travaillé 20 ans, vous multipliez 20 ans par 20 trimestres et vous avez donc la personne qui peut bénéficier de 6 ans, 7 ans de retraite donc anticipée des travailleurs de l'amiante. Donc c'est quelque chose qui est extraordinaire, sauf que aujourd'hui, nous arrivons à la fin de ce processus puisqu'il reste à peu près dans les usines. Je vois chez Eternit, c'est peut-être 20 à 25 personnes qui restent en départ à Cata, puisque ce sont les derniers, les jeunes qui ont été embauchés dans les années 80, donc qui vont bénéficier d'un an ou deux ans d'avancement de l'âge de retraite. Et après, ce système va s'éteindre et va disparaître dans l'histoire. Donc si nous ne sommes pas là pour le rappeler, et pour rappeler qu'il y a des solutions aux politiques pour justement permettre aux travailleurs, notamment pour le nucléaire, pour la chimie, pour tous les gens qui sont exposés aux cancérogènes, et notamment pour le monde agricole aussi, qui sont exposés aux pesticides, on peut effectivement dupliquer ce système d'ACATA et leur permettre de partir plus tôt et de bénéficier de quelques années de vie, parce qu'on le sait, l'âge de vie évolue, mais il n'évolue pas de la même façon pour tout le monde. Et donc ces gens-là... Moi, je tiens à dire une chose, quand même, c'est que si nous n'avions pas obtenu ça, nous aurions eu des camarades qui seraient morts dans le temps de travail des mésothéliomes. Nous avons des copains qui sont tombés à 52 ans, 53 ans, 54 ans, 56 ans. Maintenant, le mésothéliome, il frappe les gens de plus en plus tôt, puisque l'exposition est ancienne, mais on a tous travaillé, on a commencé à travailler souvent à 16 ans, 17 ans, 18 ans. Donc aujourd'hui, si on n'avait pas bénéficié de ça, il y aurait encore des gens qui mouraient au travail, victimes des maladies professionnelles. Alors, ça fait pas... C'est pas une réparation, hein. Effectivement, c'est quand même... Mais, bon, voilà, c'est quelque chose que nous avons obtenu et qui restera dans la mémoire collective des luttes.
Alors, obtenu, mais attention, puisqu'il y a un certain nombre d'alertes qui nous sont parvenues aux oreilles sur le fait que le gouvernement voudrait, à un moment ou à un autre, supprimer la CATA. Donc, on a intérêt à faire très attention de ce côté-là. Alors, pour terminer...
Philippe, dans deux ans, il n'y aura plus de salariés qui en bénéficieront.
Oui, les salariés non malades. Mais il y a deux voies d'entrée. Alors, on va terminer vraiment, cette fois-ci, juste en deux mots. Est-ce que la justice française fait son travail, puisqu'il y a des coupables tout de même?
Non. Alors là, c'est clair que nous avons obtenu des condamnations devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale, mais au pénal, ça fait 22 ans que nous avons donc des dossiers pour des décès de l'amiante au pénal qui n'ont abouti à rien. Non seulement qui n'ont pas abouti, mais des non-lieux ont été prononcés par le parquet de Paris, au motif qu'on ne connaît pas la date de démarrage d'une tumeur. Et donc, de ce fait, ils se sont servis d'un argument médical pour le retourner à un niveau juridique et dire, puisqu'on ne connaît pas le début de l'apparition d'une tumeur, on ne peut pas connaître quel était le responsable de l'industrie ou de la multinationale qui gérait à cette époque-là. C'est honteux. C'est une insulte qui est faite aux victimes, aux milliers de victimes de l'amiante, parce qu'il faut rappeler qu'ils ne sont pas tous des salariés, il y a aussi énormément de gens qui sont victimes environnementales. Et donc, le refus d'un procès au pénal dénote de la volonté du pouvoir politique de ne pas mettre sur la table ce problème de crime industriel. Et ne pas le faire, ça veut dire qu'à l'avenir, on laisse la porte ouverte au futur crime, oui, on peut appeler comme ça, du monde industriel.
Alors, on a été un petit peu long, donc là, on va s'arrêter vraiment. Simplement le mot de la fin, on va pas le faire. On va simplement donner deux informations. Si vous avez un problème avec l'amiante, vous pouvez contacter l'association...
De défense et des victimes de l'amiante, bon, du Tarn, mais en fait, vous trouvez très facilement sur Internet, soit l'adresse, soit nous on peut la donner, donc on est à Tagayac, 620 chemin de Saint-Sauveur, et puis ne pas hésiter donc à nous contacter pour tout renseignement, voilà, s'il y a des personnes qui sont concernées par ce sujet-là.
Alors, merci beaucoup, Jean-Marie.
Merci. Et
pour les gens de la région de Quélus, hein, je veux bien faire le relais des besoins et des demandes sur la question de l'amiante, puisque je suis toujours en relation avec Jean-Marie en particulier. Donc, je veux bien aider dans ce domaine, si vous en avez besoin. Et je vous remercie et je vous dis à bientôt.
Au revoir.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier, à retrouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique CFM Quélus.
Il est plus petit que le jardin de ma tante.
Oh, pas vrai.
Ah bah si. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour. Oh.